D'autant que je le mène en collaboration avec Laurent Quinton, qui n'est pas présent ce soir. C'est bon. Pour commencer, un petit mot sur cette expression d'outsider que j'utilise dans le titre, en dehors avec les outsiders 1. Selon le dictionnaire historique de la langue française, le mot outsider, bien sûr, est emprunté à l'anglais et désigne celui qui est à l'écart, celui qui est à l'extérieur d'un groupe. Très vite, il est utilisé dans le domaine du sport, du turf notamment, ainsi que pour les élections, pour désigner celui qui ne figure pas parmi les favoris, mais qui pourrait gagner. Le mot a été investi d'un sens un peu particulier dans les années 70. En 1972, l'historien de l'art anglais, Roger Cardinal, utilise ce terme pour être un équivalent anglo-saxon à la notion d'art brut forgée par Jean Dubuffet en 1949. Très vite, l'usage l'introduit dans le domaine musical et ce terme perd ses liens avec l'art brut. Tout ça pour dire que ce soir, je ne vais pas parler d'art brut et que je ne vais pas parler d'histoire de l'art. Je me contente de reprendre cette expression d'outsider telle qu'on la trouve dans des sites sur Internet ou dans des blogs musicaux. Outsider ou outsider music, ça désigne de la musique ou des musiciens autodidactes qui n'ont pas suivi donc de formation musicale et qui se lancent avec spontanéité dans la musique, avec une technique rudimentaire, voire pas de technique du tout, et qui rêvent de reconnaissance et de célébrité.
Chanter, c'est ma vie. Chanter, c'est ma passion. Je chante pour mes amis, je chante un peu à l'église, lors des mariages, vous voyez, c'est tout à fait amateur. Et on m'a convaincu de faire un disque. Alors c'est un peu en quelque sorte, comment dire, une consécration, j'en suis très fier. J'espère que ce petit florilège de morceaux, combien fameux, il y en a pléthore d'autres, mais il fallait faire un choix. Et voilà, et disons place à la musique.
On vient d'entendre Armand Cazeneuve, dit Cazoul, dans l'introduction parlée de son disque intitulé « Les plus beaux hits » par Armand Cazeneuve, dit Cazoul, volume 1. Le disque est sorti en 2004. Il a été produit et enregistré par un musicien professionnel, Renaud Papillon-Paravel, et il est sorti sur le label Big Impala. Ce disque est constitué de 9 reprises de chansons françaises, des chansons de Henri Salvador, Pascal Obispo, Francis Cabrel, Axel Red, Joe Dassin, Léo Ferré, Axel Bauer, Johnny Hallyday, Alain Bachung. Avant chaque morceau, sur fond de nappe de synthétiseur, Cazoul improvise une courte présentation de la chanson qu'il va reprendre et rend ainsi hommage à l'artiste qu'il admire. Cazoul est l'exemple du musicien outsider qui a réussi à se faire produire dans des conditions professionnelles et qui a connu une relative notoriété grâce au web. Quand Cazoul, dans l'introduction, parlait de son disque de reprise, dit « place à la musique », on vient de l'entendre, c'est au sens fort qu'il faut l'entendre. Place à la musique, ça veut dire que la musique va désormais prendre toute la place, qu'elle va prendre la place qu'elle aurait toujours dû avoir dans sa vie. Ce qui s'organise d'abord dans l'intimité de Cazoul prend de plus en plus de place jusqu'à ne plus tolérer quoi que ce soit qui ne soit pas en lien avec ce faire de la musique, chanter, jouer, s'enregistrer, devient une nécessité balayant la vie d'avant qui paraît fade face à cette vie nouvelle qui s'ouvre à présent. Tout devient carburant, tout devient matière, tout devient combustible, tout devient prétexte à alimenter cette activité compulsive. Rien n'est laissé de côté. Comme un musicien du dimanche qui aurait décidé que c'était tous les jours dimanche, ce faire de la musique devient le centre d'une vie consacrée désormais à l'exploration de ce talent qui espère un jour la consécration, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre, quelles que puissent être les instances de légitimation, que ce soit l'enregistrement d'un disque, la diffusion de morceaux sur Internet, le reportage télé, l'invitation par une radio ou l'animation de discothèque. Ces musiciens outsiders rêvent d'apparaître, mais l'apparition publique pour eux et la reconnaissance, c'est aussi la mise à mort, c'est aussi la mise en ordre des catégories, c'est le décernement des attributs du musicien professionnel par l'industrie musicale qui se donne à elle-même ces monstres, ces créatures étranges et menaçantes, conformément aux récits et aux clichés culturels qu'elle aime et conformément aux clichés culturels qu'elle a elle-même produits. Ces clichés culturels produits par l'industrie sont perpétuellement relayés, réactualisés. Mais l'un des clichés les plus emblématiques est sans doute celui qui a trait à la figure d'Elvis, au mythe d'Elvis. Elvis qui serait paradoxalement l'exact inverse d'un outsider, mais aussi son point d'attraction maximale, sa ligne d'horizon absolue. En effet, Elvis correspond parfaitement au cliché du musicien amateur découvert par un producteur ou un directeur de label selon l'histoire qu'on a avant sa découverte. Les outsiders rêvent d'être récupérés par l'industrie musicale à la manière d'Elvis. Les anecdotes concernant Elvis avant sa découverte en 1954 laissent ainsi entrevoir le portrait possible d'un outsider, comme l'écrit le rock critique anglais Nick Cohn en 1968. Je cite... Il était campagnard, naïf, très religieux. C'est peu dire qu'il faisait jeune pour son âge. Il collectionnait les ours en peluche, mangeait rituellement des sandwichs au beurre de cacahuète et à la banane écrasée chaque soir avant de se coucher, et aimait sa mère jusqu'à la nausée. En fait, c'est alors qu'il gravait en amateur une version de My Happiness comme cadeau d'anniversaire pour elle qu'il fut découvert. Donc naïveté, milieu modeste et rapport à l'enfance sont des traits qui pourraient convenir à la description d'un outsider. Dans le cas d'Elvis, son histoire agit comme un mythe inaugural. Il s'agit d'une métamorphose quasi miraculeuse et magique, comme dans les contes de fées, une métamorphose qui a lieu par un coup de baguette magique et qui a lieu une seule fois, et qui autorise ainsi les outsiders à espérer qu'elle sera à nouveau possible. S'ils ne connaissent pas l'histoire d'Elvis, les outsiders connaissent cette histoire selon laquelle, du jour au lendemain, une vie pourrait basculer positivement grâce à la reconnaissance. Greg Marcus, dans son introduction à Dead Elvis, présente ainsi le phénomène Elvis. Je cite « Elvis Presley fut projeté sur la scène publique avec une force telle que sa propre histoire a été très vite amalgamée aux clichés culturels qui semblaient lui correspondre. » Elle entra dans le domaine public parce qu'elle en faisait déjà partie. La naissance dans un milieu rural d'une pauvreté absolue, le déménagement vers la ville, le premier disque enregistré pour un label local, le scandale et l'adulation planétaire sans précédent, la métamorphose d'un outsider menaçant et bizarre en citoyen respectable ayant servi sa patrie sans rechigner, les années passées à produire consciencieusement des films formatés et de la musique décevante, le mariage, la paternité, la vie tranquille derrière les murs de son manoir, puis le retour stupéfiant, tonitruant, vibrant, le lent et apparemment stérile déclin, le divorce, les tournées sans fin, aussi stérile que ses anciens films, les nouvelles remplaçant les rumeurs terribles et enfin la mort prématurée. On voit que l'outsider serait celui dont la métamorphose ne s'est pas effectuée ou, disons, celui que la métamorphose a rendu encore plus étrange, encore plus menaçant, encore plus fragile et vulnérable. Car sous l'effet d'une reconnaissance, ces musiciens sont comme des chenilles qui se métamorphosent en papillons et meurent quelques semaines après. Leur vie d'insecte ailé ne dure pas. L'outsider meurt après avoir accédé à la reconnaissance. Il meurt à double titre. Tout d'abord parce qu'il devient un animal de foire à la durée de vie forcément très limitée. Et ensuite parce que sous les lumières, il est pris dans un jeu de dupes où il ne veut pas voir qu'on se moque de lui, car s'il le voyait, il se tuerait probablement. À moins qu'il ne prenne le parti d'en rire, misant ainsi sur les railleries qu'il déclenche pour atteindre son but. Si certaines émissions de télé ou de radio par le biais de reportages ou d'invitations à l'antenne font semblant de lui accorder un statut de professionnel ou de professionnel en devenir, c'est toujours en tant qu'animal de foire et non en tant que chanteur sérieux que cette place lui est accordée. Et si l'outsider accepte cette position qu'on lui assigne. Celle-ci repose sur ce malentendu fondamental, grâce auquel il espère se voir décerner les attributs du professionnel, c'est-à-dire avoir un producteur, enregistrer dans un studio, avoir un CD disponible dans les bacs à disques ou sur Internet, être sujet de reportage ou d'émissions télévisées, faire des concerts, signer des autographes, avoir des fans, tout cela sans la technique ni le talent pour être reconnu en tant qu'artiste sérieux. Les outsiders constatent qu'ils font rire, que ce qu'ils font, ça fait marrer tout le monde, alors que leur musique ne se veut pas drôle, alors qu'ils font cela le plus sérieusement du monde, alors qu'ils pensent jouer la musique la plus en conformité avec la norme, alors que leur musique se veut distrayante et rassurante, elle produit l'effet inverse. Ce qu'ils font fait rire ou fait peur. Revendiquer parfois l'humour devient alors pour eux une forme de protection, tout en ne renonçant jamais à être connu en tant que chanteur sérieux. Si par reconnaissance on entend être vu et écouté avec sincérité par un public, alors celle-ci échappe fondamentalement à l'outsider. Dans tous les cas, l'outsider n'est jamais pris pour ce qu'il est, il n'est jamais ce qu'il veut être aux yeux des autres. Ce qui habite l'outsider, c'est cette croyance absolue, cette foi inébranlable en ces récits mythiques de starification. Les paroles de chansons de certains outsiders mettent en scène la figure de l'artiste-chanteur aux prises avec ce récit de starification. Avoir du succès, rechercher un producteur, avoir des fans et les remercier. C'est le cas de Jean-Pierre Sauzère qui reprend ces thèmes dans deux de ses chansons. Je recherche un producteur et je vous dois tout, dans laquelle il s'adresse à ses fans. On va écouter un petit extrait de « Je cherche un producteur ». Ces thématiques ne sont pas propres aux outsiders, bien sûr, et le récit, par exemple, des changements dus à un statut de star nouvellement acquis ou tout simplement le récit d'une vie de chanteur-star sont une thématique habituelle de chansons qu'on pense au tube, évidemment, Le Chanteur de Daniel Balavoine en 1978 notamment, ou à Mickey de Christophe en 1974, mais aussi plus récemment, c'est un exemple parmi d'autres, au morceau Headlines du rappeur Drake en 2011. Bon, sauf que pour eux, il s'agit d'un jeu, d'un exercice de style, d'une occasion de démontrer sa virtuosité. Je pense ici à la forme qu'on appelle l'ego trip dans le rap, où le MC célèbre volontairement, exagérément, sa supériorité artistique et commerciale sur ses concurrents. Sauf qu'il s'agit souvent d'un discours à prendre au premier degré, alors que pour les outsiders, il s'agit d'un discours à prendre au premier degré. L'outsider cherche vraiment un producteur et pense vraiment avoir des fans qui le prennent au sérieux. C'est comme un enfant qui attire l'attention de ses parents du haut de l'escalier et qui attend d'être reconnu. l'outsider refuse de cesser de croire qu'il pourra un jour être reconnu pour ce qu'il fait et non pour ce qu'il est. Il est un garçonnet qui n'a pas renoncé à son rêve d'être cosmonaute et qui a fabriqué son propre costume. Ses proches le soutiennent ou tentent de le faire redescendre sur Terre ou les deux à la fois. Il est comme Don Quichotte qui interprète les signes du monde réel comme la confirmation de la réalité du monde qu'il a imaginé. Les commentaires désobligeants sur YouTube ou les téléspectateurs ricanants sont des armées de fans en délire qu'il faut à la fois aimer et refouler. Les émissions de télé de troisième zone, type Tellement Vrai sur Énergie 12 ou Confession Intime sur TF1, sont pour lui les portes d'entrée vers le succès. Les outsiders n'ont pas seulement la non-maîtrise de la technique musicale, ou disons qu'ils ont une maîtrise, une technique musicale approximative, ils ont, on le voit également, la non-maîtrise de leur communication et de leur médiatisation, ils ont la non-maîtrise de qui ils sont, de leur identité. Ainsi, parler d'eux revient à les faire apparaître pour ce qu'ils ne sont pas. Nous ne pouvons les définir qu'à partir d'un point de vue extérieur, qu'à partir de critères étrangers à ce qu'ils sont. Du coup, il faudrait pouvoir passer à l'intérieur, tenter de se mettre à leur place et oublier nos critères habituels d'évaluation lorsqu'on écoute leur musique. La sincérité avec laquelle ils chantent et jouent de la musique nous oblige à interroger la nôtre quand nous les écoutons, à interroger la mienne aussi. Pouvons-nous vraiment écouter cette musique autrement qu'au troisième degré ou qu'en ricanant ? Pouvons-nous vraiment aimer leur musique au premier degré ? Et dit autrement, est-ce que Stefano Di Mariano nous fait davantage ricaner que Luis Mariano ? On va écouter un extrait de Stefano Di Mariano.
Calenta, la blanquette de mots. Gourmand, du soir au matin, avec des petits oignons. J'adore ça, c'est super bon, la blanquette de veau avec des petits oignons. J'adore ça, comment du soir au matin, du soir au matin. Moi j'adore ça, oh ouais, oh ouais. Ça c'est bon, c'est ça, blanquette de veau avec des petits oignons, blanquette de veau. Et
Stefano Di Mariano s'appelle ainsi en hommage à Luis Mariano, comme si la voix de Stefano Di Mariano recouvrait celle de Luis Mariano. La voix de Stefano Di Mariano recouvre réellement celle de Michael Jackson sur le morceau Bidet, par exemple, dans lequel il remplace les paroles originales du morceau Beat It par Bidet. Sur Dingue de Mon Slip, la voix de Stefano Di Mariano chante sur le morceau Down on the Street du groupe Jazz Funk Shack Attack. La voix de Stefano chante aussi sur le deuxième mouvement du concerto pour harpe et orchestre en do majeur de François-Adrien Boieldieu. La voix de Stefano chante sur les chansons et sur la musique des autres parce qu'il n'a pas la technique, ni le matériel, ni l'argent pour acquérir ce matériel, ni l'entourage pour l'aider. La musique des outsiders ne fait que répéter ce geste premier qui est de recouvrir la musique dominante par leur voix, qui agit alors comme une immense voice-over. Stefano Di Mariano en est l'exemple le plus frappant en France, mais on pourrait citer l'américain Shubby Taylor qui chante sur les chansons de Johnny Cash. Les outsiders nous font réécouter le disque ininterrompu de la musique dominante en y insérant des rayures ou en y laissant des traces de doigts. Il dépose un sachet papier de viennoiserie sur le tourne-disque ou sur le gros poste à cassette et laisse traîner des miettes sur le clavier de l'ordinateur. Il dépose des inserts sales et difformes qui sont comme une parodie involontaire de tous les genres musicaux. Stefano Di Mariano fait de la dance music et accentue tout ce qu'elle comporte de régressif et de dépressif. Jean-Pierre Sauzer fait de la variété, Frédéric Durand de la chanson engagée, Michel Farinet prend indifféremment pour thème de ses chansons Albert Einstein, la monnaie unique européenne, les hommes politiques ou sa chatte grisette. Amandine du 38 fait du rap, Cazoul reprend l'été indien, allumer le feu ou cet extra avec un accent béarnais. Normand Lamour invente un monde où il dispenserait la parole divine. Henri Pichat dit HP joue du rock alternatif. Marcel Lehon invente des ritournelles de chanteurs de rue. On va écouter un extrait de Marcel Lehon.
Après une semaine de travail, je suis un jeune comme toi. Je pense à les danser, le slow, le disco, les vidéoclips. On danse toute la nuit dans les boîtes de nuit. J'ai mon look et toi ton look, chacun le sien. Du reggae au nouvel, il y en a pour tous les goûts. Le slow, le disco, les vidéoclips. On danse toute la nuit dans les boîtes de nuit. Des nouveautés comme cette chanson magique. On en prend plein la vue avec ces jeux de musique de lumière. Le slow, le disco, les vidéoclips. On danse toute la nuit dans les boîtes de nuit. Un slow ou deux avec une partenaire. Ça ne fait pas de mal, on se dépense toute la nuit dans la boîte de nuit. Le slow, le disco, les vidéoclips. On danse toute la nuit dans les boîtes de nuit. Tous les samedis soirs, c'est les boîtes de nuit. Un coup à gauche, un coup à droite. Après tout ça, on a plein les oreilles et c'est terminé. Le slow, le disco, les vidéoclips. On danse toute la nuit dans les boîtes de nuit. Le slow, le disco, les vidéoclips. On danse toute la nuit dans les boîtes de nuit.
Le slow, le disco, les vidéoclips, du reggae au new wave, il y en a pour tous les goûts. Comme le chante Marcel Lehon, rien n'échappe à cet immense programme de parodie involontaire de la musique dominante. Dire que ce programme est inécoutable, c'est dire qu'il est éprouvant et désagréable à écouter, mais c'est dire aussi qu'il l'est au sens où l'on ne devrait pas avoir le droit de l'écouter. Leurs chansons sont un message téléphonique désespéré et halluciné laissé sur un répondeur. Après le bip sonore, nous entendons ce que nous n'aurions jamais dû entendre. Nous entendons un message dont nous n'étions pas les destinataires. Par leurs chansons, nous accédons à ce à quoi nous n'aurions dû jamais avoir accès. Nous voyons ce que nous n'aurions pas dû voir. Nous rentrons dans leur chambre d'enfant, nous rentrons dans leur chambre d'adolescent, nous rentrons dans leur maison, dans leurs appartements, nous voyons les pièces dans lesquelles ils vivent, nous entendons leur intimité, nous entendons leurs prières. Nous marchons dans leur salon comme sur une scène. Nous entendons les voix qui baissent d'un ton, nous voyons les têtes des spectateurs qui peu à peu ne bougent plus, s'immobilisent, et aussi les doigts un peu courbés qui s'agitent et nous désignent discrètement. Nous ne connaissons pas la place des meubles et nous nous cognons le tibia contre la table basse ou bien le canapé. Nous marchons hébétés sous les projecteurs, à moins que ce ne soit les néons de la cuisine ou l'ampoule de la chambre, micro-cravate, sifflement du pantalon entre les jambes, meubles fantômes, le moment d'hébétude passé, un peu comme le premier jour de la période d'essai de la première journée de travail, où les actions du quotidien sont gonflées d'une densité nouvelle, nous avançons toujours de ce pas à la fois hésitant et contraint, et finissons, comme par miracle, par atteindre un endroit scénique imaginaire, mais pourtant bien réel, qui se trouve être juste devant l'écran d'un PC.
Il tenait la poignée de porte. Il tenait la poignée de porte. Puis alors chapeau. La poignée, la poignée, la poignée. Il advirait sous tous les bords. La poignée, la poignée. Puis parlait. Y avait beaucoup de choses à dire. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. Et puis il parlait. Et puis ya tenait. Et puis ya tenait. La poignée de porte. Et puis il voulait s'en aller. Et puis il parlait. Y avait pas encore entendu klaxonner le taxi à la porte. Et t'assouré un petit peu.
Normand Lamour est un Québécois de 83 ans qui a enregistré 213 CD. On vient d'écouter un extrait de Y'a lâché pas, un morceau qui est tiré de l'album C'est pas possible, sorti en 98. Il travaille avec le logiciel Band in a Box. Il a été nominé en 99 pour le prix Félix de l'album Humour de l'année au Québec, mais il a décliné parce qu'il... Il ne se considérait pas comme un chanteur humoristique. Il a posté plus de 2000 vidéos chantantes sur YouTube et alimente son compte Twitter quotidiennement, plusieurs dizaines de fois par jour, avec sensiblement les mêmes messages d'invitation à aller regarder et écouter ses vidéos chantantes dans lesquelles il se filme avec des peluches d'enfants. Ce qui serait erroné de dire, c'est dire qu'on les regarde toutes. Ce qui serait erroné de dire, c'est dire qu'on ne les regarde pas. Ce qui ne serait pas erroné de dire, c'est dire qu'on n'en parle pas sans sourire. On les regarde, on les écoute, on les écoute sans doute moins qu'on ne les regarde. On en rigole, mais on n'en parle pas sans ricaner. On les regarde, on se marre, on les regarde, on se marre, on les regarde, on se marre. On les regarde, on se marre, on les regarde, on se marre plusieurs milliers de fois, jusqu'à ce que, fatigué d'avoir autant ri, on commence à les écouter sérieusement en oubliant de les regarder, pris dans un temps qui ne nous appartient plus. Il est 21h14 à l'horloge de l'ordinateur et nous ne commençons pas tout de suite. Nous ne commençons pas tout de suite à chanter. Nous allumons d'abord la webcam et plaçons la souris au-dessus de la touche capture vidéo. Nous réglons le contraste et la luminosité. Enregistrez-vous. Broadcast yourself. Bienvenue ce soir. Ce soir, bienvenue. Se regarder faisant ce qu'on ne sait pas faire, parfois on tremble à l'intérieur. Est-ce que ça se voit que je tremble très fort la première fois? Est-ce que vous me voyez trembler? Ou est-ce que ce sont juste les pixels? Pourquoi ai-je l'air aussi hagard? J'oublierai bientôt la première sensation et je serai alors comme un toxico en manque. Je reviendrai chercher ça. Je reviendrai chercher la première fois où je me suis mis à chanter. La première fois où j'ai retenu ma respiration avant de me mettre à chanter. Est-ce que c'est possible de se souvenir de la première fois où l'on a retenu sa respiration avant de chanter? On se souvient des chansons que l'on a écoutées la première fois, mais est-ce qu'on se souvient de la première fois où l'on a chanté? On se souvient plus aisément de la première fois où l'on a chanté en public, mais... La première fois où j'ai chanté seul, je ne m'en souviens pas. Peut-être que ça n'a aucune importance. On chante pour ne pas être seul et ça apaise. Je ne me souviens pas d'un moment d'apaisement produit par ma propre voix. Sans doute est-ce aussi parce que je ne sais pas chanter. Je ne sais absolument pas chanter, du coup ça ne doit pas m'aider beaucoup à me souvenir de la première fois où j'ai chanté seul et de ce moment d'apaisement que ça aurait produit. Ce moment apaisé, je l'ai oublié. Par contre, je me souviens de la première fois où j'ai chanté en public. Parce que la première fois où j'ai chanté en public, en réalité, je ne chantais pas. Je faisais semblant. C'était une comédie musicale sur le soleil. Et le soleil était personnifié par une petite fille qui donc était déguisée en soleil. Et l'histoire portait en gros sur tout ce que le soleil permet de forme de vie sur Terre. Il y avait des humains, des animaux, des plantes, mais aussi la pluie, le tonnerre, les nuages. C'était en quelque sorte une comédie musicale sur la météo avec des enfants. Moi, je jouais le rôle d'un nuage. J'étais avec un groupe d'enfants et on faisait les nuages. Je faisais semblant de chanter dans ce projet de fin d'année. Devant les parents et avec les autres enfants, j'étais à la fois celui qui chantait et celui qui ne chantait pas. Je faisais les deux en même temps. Aujourd'hui encore, quand je chante, je fais les deux en même temps. Je chante et en même temps, je ne chante pas. C'est ce que je fais maintenant. Là, devant vous, en ce moment, je suis en train de chanter et de ne pas chanter. Je fais les deux en même temps. Je chante et je ne chante pas. Devant les parents de la scène de la salle municipale et grâce à monsieur le directeur technique de notre village, je fais les deux à la fois. Je chante et je ne chante pas. La maîtresse nous avait disposé selon la hauteur de nos voix. Je suis au fond, derrière les autres, je chante fort. La maîtresse dit peut-être tu peux chanter un peu moins fort. Si tu chantes faux comme ça, peut-être c'est mieux que si tu bouges juste les lèvres et que tu ne fais pas de son avec ta bouche. Oui, tu continues de chanter mais sans faire beaucoup de son. Que tu chantes en faisant presque pas de bruit, c'est mieux. Oui, comme ça c'est mieux. C'est mieux. C'est bien. C'est bien mieux comme ça. Oui, c'est bien mieux comme ça. Pour le projet de fin d'année, oui, c'est bien mieux que tu fasses semblant de chanter. Par la suite, à chaque fois qu'il a fallu que je chante en public, lors des mariages ou des messes, par exemple, je faisais semblant. C'est dangereux de faire semblant de chanter. Ça peut se voir, ça peut ne pas s'entendre, mais ça peut surtout se voir et ça peut être dangereux d'être pris en flagrant délit de faire semblant de chanter. Que comme si on mettait en danger non seulement l'ensemble des chanteurs réunis autour de vous, mais aussi le public. Comme si on montrait au public que tout ça n'est pas vrai, qu'il y a quelque chose de faux là-dedans, que le chanteur est faux, que le chanteur est un personnage de fiction. « No hay banda », répète le maître de cérémonie du Club El Silencio dans Mulholland Drive de David Lynch. « Il n'y a pas d'orchestre ». Les outsiders prennent la posture de ceux qui chantent, de ceux qui s'apprêtent à chanter, mais ils ne chantent pas. Ils ne chantent pas car c'est nous qui voulons les entendre avant même qu'ils n'émettent le moindre son. Leur chant est imperceptible. Ils se dirigent vers le micro que nous leur tendons. Ils s'approchent et juste avant qu'ils prennent leur première respiration, nous les entendons déjà chanter alors qu'ils ne chantent pas. Nous les imaginons seulement chanter. Bienvenue ce soir. Ce soir, bienvenue. Ça consiste à faire ce qu'on ne sait pas faire. Ça consiste à faire parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ça ne consiste pas à apprendre à faire quelque chose. Ça consiste à ne jamais apprendre à faire ce qu'on ne sait pas faire. Ça consiste à ne plus jamais faire ce qu'on savait faire. Ce qu'on savait faire n'a plus la saveur de ce qu'on aimait faire. Qu'est-ce qu'on aimait faire ? On aimait faire ce qu'on ne savait pas faire, mais toujours vient le moment où ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire ne coïncide plus. Ça consiste alors à se mettre à faire ce qu'on ne sait pas faire. Ça consiste alors à se mettre à faire ce qu'on ne sait pas faire sans autre intention immédiate que de faire ce qu'on ne sait pas faire. Faire sans s'arrêter de faire, puis oublier qu'on fait ce qu'on ne sait pas faire. Oublier totalement qu'on ne sait pas faire ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je me regarde faire ce que je ne sais pas faire, comme si je me regardais écrire de la main gauche alors que je suis droitier, ou plutôt comme si je faisais semblant d'écrire de la main gauche alors que j'écris de la main droite. Oui, ça serait comme si je cherchais ma main gauche dans la droite et que je regardais ce que donne cette déformation qui serait comme un écho déformé de ma relation à une musique elle-même déformée, une musique distorsionnée, une musique jouée et chantée par des musiciens qui ont oublié qu'ils ne savaient pas faire ce qu'ils étaient en train de faire. Je fais semblant de ne pas savoir faire ce que je sais faire, à moins que je ne fasse semblant de faire ce que je ne sais pas faire. Dans les deux cas, je ne pourrai jamais oublier que je ne sais pas faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Parce que je ne pourrai jamais dire que j'aurais pu devenir l'un d'entre eux. Parce que je ne pourrai jamais dire, par exemple, je ne pourrai jamais dire que je m'appelle Daphniel parce que j'aime Daniel Guichard et les dauphins. Je ne pourrai jamais dire non plus que je m'appelle Stefano Di Mariano parce que j'aime Luis Mariano et le funk des années 80. De même, je ne pourrai jamais dire que je m'appelle Cazul parce que j'aime le Béarn et la chanson française. Je ne pourrai jamais dire non plus que je m'appelle Rock Nino parce que j'aime le rock et Nino Ferrer, ou que je m'appelle Mario Motta parce que j'aime Mario Bros et les glaces, ni que je m'appelle Amandine du 38 parce que j'aime l'Isère et le rap. Je ne pourrai jamais dire non plus que je m'appelle Michel Fariné parce que c'est mon nom et que je veux être moi-même quand je chante. Jamais je ne pourrai dire que je m'appelle Jean-Pierre Sauzère parce que, comme Daniel Balavoine, je ne veux pas changer de nom pour devenir un chanteur célèbre. Je ne pourrai jamais dire que je m'appelle HP parce que ce sont les initiales d'Henri Pichat, que je m'appelle Frédéric Durand parce que c'est le nom inscrit sur un CD démo dans les poubelles d'une maison de disques, que je m'appelle Marcel Léon parce que c'est le nom inscrit sur une cassette audio envoyée par courrier, que je m'appelle Normand Lamour parce que le créateur céleste me demande de partager l'amour universel divin sur la planète aux gens qui veulent le recevoir à cœur divin ouvert. Je ne pourrai jamais dire ça parce que je serai toujours, et vous aussi sans doute, nous saurons toujours si nous utilisons notre main gauche ou notre main droite, parce que je ne serai jamais, et vous aussi sans doute, nous ne serons jamais complètement à l'intérieur de notre main gauche si nous sommes droitiers, et inversement si nous sommes gauchers. Nous serons toujours à l'extérieur de notre main gauche. Nous ne pouvons qu'imaginer être dans notre main gauche. Nous pouvons tenter de nous approcher, mais jamais nous ne pourrons y rentrer complètement. Nous pouvons seulement nous approcher et essayer d'être dedans, faire semblant d'être dedans, puisque de toute façon, il n'existe pas d'autre moyen que de faire semblant, que de prétexter à un moment, faire partie de leur monde pour être avec eux un court instant. Nous tournons des phrases entendues, nous les bouclons et nous en faisons des mantras, des hymnes nationaux, des airs populaires, des rengaines folkloriques, des comptines traditionnelles. Ce que mon père répond à ma mère, ce que ma mère me répond, ce que mon père répond à ma mère qui me répond, ce que ma mère répond à mon père qui répond à ma mère qui me répond, ce que je réponds à mon père qui répond à ma mère qui me répond quand je réponds à sa question qui est de savoir ce que j'ai fait aujourd'hui à l'école et que je réponds qu'aujourd'hui à l'école on a chanté avec la maîtresse et que je n'ai pas été tout à fait sage. Et que je me suis levé et que j'ai crié, car parfois, oui, je me lève et je crie. Parfois, si c'est vraiment fort, je me mords les doigts pour ne plus crier. Je mets mes doigts dans ma bouche et je les mords, bouche ouverte. J'enfonce mes dents et ma langue pointue dans mes doigts pour ne plus crier, comme maintenant. C'est ce que je fais maintenant. Je m'enfonce les doigts de la main droite dans la bouche pour ne plus crier, mais ça me fait crier encore plus. Je crie à l'intérieur de mes doigts, une main mordue dans la bouche, la droite, tandis que la gauche s'agite comme un éventail près de mon visage, comme si cela me donnait chaud de me mordre ainsi. L'éventail commence par toucher ma joue gauche et c'est comme ça que je me donne des gifles parce que l'éventail est trop proche de mon visage et les doigts agités frôlent la joue et ça se transforme en gifle sur la partie gauche du visage. Je me gifle à cause de l'éventail trop proche de mon visage. Je me gifle et c'est comme si je m'applaudissais. Cette gifle que je me fais à moi-même, c'est comme si je m'applaudissais directement le visage. Je suis vraiment très angoissé à l'idée de chanter. Très excité aussi. Très angoissé. Très excité aussi à l'idée de chanter à l'école aujourd'hui. La maîtresse dit « Prends un crayon et dessine un cercle ». La maîtresse dit « C'est le cercle de ce que tu aimes faire ». La maîtresse dit « Garde ton crayon à portée de main et dessine un deuxième cercle qui chevauche le premier ». C'est le cercle de ce à quoi tu es bon. La maîtresse dit « Ne repose pas ton crayon et dessine un troisième cercle qui chevauche le premier et le deuxième cercle ». c'est le cercle de ce que tu sais vendre. La maîtresse dit, pour réussir à faire ce que tu veux faire doit se situer à l'intersection de ces trois cercles. La maîtresse dit, selon les méthodes américaines de management en leadership préconisées par Jim Collins dans son livre « Good to Great », en français, de la performance à l'excellence. Pour optimiser ton potentiel, ce que tu fais doit se situer à l'intérieur des trois cercles. La maîtresse dit, tu n'es pas bon dans ce que tu aimes faire et tu ne sais pas non plus vendre ce à quoi tu n'es pas bon mais que tu aimes faire. À ce moment-là, Kazoul se lève de sa chaise et interrompt la maîtresse et dit, ne cherche pas à savoir ce que tu fais. Kazoul dit, toi, tu te situes seulement dans le premier cercle, dans le cercle de ce que tu aimes faire, et tu t'y sens bien, oui, tu t'y sens bien dans ce cercle. Kazoul dit, place à la musique. Kazoul dit qu'il y a maintenant plus que ça à faire. Kazoul dit qu'il ne faut faire que ça maintenant. Il dit que rien que ça, c'est déjà beaucoup. Kazoul dit que la musique, c'est beaucoup. Il dit que la musique, c'est beaucoup de choses à faire. Il dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Kazoul dit que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Il dit, je suis vraiment très occupé. Il dit qu'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Il dit qu'avant, j'avais moins de trucs à faire, mais qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'à faire ce qui doit être fait. Kazoul dit que pour réussir à faire tout ce qu'il y a à faire, il faut galoper à travers les champs et éviter tous ces obstacles qui nous ralentissent avant la mort. Nous galopons à travers plusieurs champs sans ne jamais croiser personne, pas même des animaux. Nous sentons les herbes sur nos jambes, nous sautons au-dessus des talus et des fossés, nous sautons au-dessus des barrières et des clôtures, nous nous penchons au-dessus des ravins et nous écoutons l'écho d'une musique qui nous entraîne vers les starting gates. Nous sommes des chevaux sur lesquels personne ne parie, nous nous accordons le droit de participer à la course, nous nous coachons nous-mêmes, nous nous alimentons de nourriture bon marché, côte de porc, gratin dauphinois surgelé, chips au fromage, café soluble, boîte Benenos, 12 ambiances. Dans les grandes surfaces ou dans des commerces de proximité, le dimanche, pour nous, c'est le meilleur jour. Nous nous parlons à nous-mêmes pour nous encourager. Nous inventons nos slogans et nos propres légendes. Nous chuchotons dans le creux des webcams. Nous chargeons les vidéos, broadcast yourself. Et nous nous regardons nous regarder et nous attendons les commentaires des premiers forumers avec excitation. Nous attendons ces mots qui annoncent le départ de la course dans laquelle nous nous élançons assis devant l'écran de notre PC. Nous attendons la confirmation que ce que nous venons d'enregistrer est bien réel, que ce que nous répétons en boucle dans le creux du micro, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir l'écouter. Bienvenue ce soir. Ce soir, bienvenue.
Allez, bienvenue ce soir. J'espère que vous êtes là-bas, c'est une grave soirée ce soir. On dirait de la Kalimba et c'est parti comme ça. Bienvenue ce soir à la Kalimba. J'espère que vous êtes là-bas, c'est une bonne soirée ce soir. On dirait de la Kalimba avec du chi. Stéphane, allez, c'est parti comme ça. Une nouvelle version en DJ ce soir pour la Kalimba. Petit bikini, version dance, version dream, tout petit, bikini, très joli, bikini, elle avait tout petit, bikini, très joli. Bikini. Comment? Tout petit. À toi. À toi. Hi, hi, tout petit. Bikini. Très joli. Bikini. Elle avait tout petit bikini,
c'est un ami que nous appellerons CD, qui m'a fait découvrir Stefano Di Mariano. CD m'a envoyé la page du blog Cartilage Consortium sur Stefano Di Mariano. On y voyait une photo de Stefano, le regard un peu éteint. Il portait une veste en strass et on pouvait écouter 3 de ses chansons. Hier soir, je me suis entraîné à chanter une chanson de Stefano. Je me suis enregistré pour m'entraîner à chanter la chanson Elodie de Stefano. Mais ça a été un échec. Donc avant, j'ai aussi écrit un texte inspiré par Stefano. Je suis Stefano. Plus exactement, le Stefano que j'interprète est distinct du Stefano réel. Disons que je suis l'interprète de la légende de Stefano. Je suis le Stefano de la légende. Je suis le Stefano intense. Je suis intensément Stefano.
Instant, vous allez donc voir votre fils et votre frère et nous, notre ami. Monsieur Luis Mariano. Si vous le permettez, pour bien que ma mère est là, et aussi un peu pour toutes les mamans du monde, une chanson que vous connaissez. Maman la plus belle du monde. Maman, c'est toi la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie.
Les mères nous racontent le monde et mettent Luis Mariano à notre portée. Grâce à Luis Mariano, elles nous rendent le monde plus supportable. Grâce à Luis Mariano, les mères nous donnent de la confiance et de l'assurance. Les mères nous font nous sentir plus forts grâce à Luis Mariano. Les mères nous tricotent des pulls et nous forcent à les porter devant Luis Mariano. Les mères font de nous les héros de nos histoires avec Luis Mariano en guest star. Les mères nous empêchent de tuer Luis Mariano. Les mères réparent nos bêtises derrière nous. Les mères se souviennent des insultes avec lesquelles nous avons traité Luis Mariano. Les mères ont des vengeances qui nous font peur. Les mères nous coupent les couilles et les offrent à Luis Mariano pour nous protéger de la mort. Les mères nous coupent aussi les cheveux et nous aident à nous lever le matin pour aller à l'école Luis Mariano. Les mères nous rassurent avant le conseil de classe quand on est en 3e B et qu'on a Luis Mariano en prof principal. Les mères lisent directement nos pensées dans notre cerveau. Les mères sont tout entières dans notre cerveau et elles y mettent aussi Luis Mariano. Les mères nous enlèvent les caillots de sang à l'intérieur de notre cerveau et les remplacent par Luis Mariano. Nous avons des caillots de Luis Mariano dans notre cerveau. Les mères nous aident à faire de nos chambres des lounges tropicales pour y inviter Luis Mariano. Les mères installent dans nos chambres des fausses cascades et des aquariums avec des poissons exotiques super rares. Les mères sont des femmes fontaines devant Luis Mariano. Les mères font rentrer Luis Mariano dans notre bouche et nous sentons alors ses mains minuscules sur notre langue. Les mains de Luis Mariano nous font rire et nous retournent la langue pour nous étouffer.
J'avais fait des rêves.
Cette nuit, je me suis réveillé d'un seul coup, je suis sorti. Il faisait noir, mon père dormait encore. Je suis sorti marcher dans les rues, j'avais un peu faim, j'ai marché jusqu'à la brioche dorée qui bien sûr était fermée. J'ai attendu et je n'ai pas arrêté de penser à Luis Mariano. Quand je sors marcher tôt le matin, je pense à Luis Mariano, ça me fait rire de penser à lui comme ça quand je marche dans la rue à côté des gens. Ils ne savent pas à quoi je pense, ils ne savent pas que je pense à Luis Mariano tandis qu'il marche pour aller travailler. Je suis devant la brioche dorée, je fais la queue et je regarde Elodie en uniforme servir des croissants ou des pains au chocolat. Quand c'est mon tour, je n'arrive pas à lui articuler autre chose qu'un bredouillis qui semble vouloir dire « chaussons aux pommes ». À condition de bien prêter l'oreille et de réécouter plusieurs fois de suite « chaussons aux pommes, chaussons aux pommes, chaussons aux pommes ». Elodie ne me demande pas de répéter. Elodie comprend « chaussons aux pommes » quand je m'adresse à elle, alors que n'importe qui d'autre m'aurait demandé de répéter ce que je n'ai pas réussi à articuler correctement. Elle interprète mon bafouillage comme voulant dire « chausson aux pommes ». Je souris beaucoup trop, je dis merci, et cette fois c'est quasiment bien articulé quand je rends la monnaie. Oui, quand je rends la monnaie et que je dis merci, c'est quasiment bien articulé, bien plus que quand je dis « chausson aux pommes ». Car j'ai vraiment une façon dégueulasse de le dire, parce que chausson glisse trop dans ma bouche. Chausson, c'est dur de ne pas le glisser trop dans la bouche avec la langue qui bouge pas assez, qui ne fait pas l'effort de se soulever pour articuler les syllabes du mot chausson. Chausson, ça fuit dans ma bouche parce que chausson ne s'enroule pas bien sur ma langue. Dans ma bouche, chausson n'est pas assez enrobé. Et quand j'essaie de le détacher sans stress, chausson devient bizarre, ça part trop fort et ça envoie une bulle de salive qui explose sur la vitrine de la brioche dorée. Quand je fais l'effort de tout articuler, la vitrine se constelle de bulles de salive qui dégoulinent un peu et sèchent doucement, tandis que j'essaie de bien détacher chausson de ma bouche. Qu'est-ce que je lui dis vraiment quand je demande à Élodie un chausson aux pommes ? Peut-être que ma langue renverse le U dans ma bouche. Peut-être que c'est ça, ce Baudouy. C'est ma langue qui enroule mal le U, qui devient N, qui tourne le U en N. Et que ce U renversé, c'est chanson aux pommes. Oui, c'est peut-être ça que je bredouille. C'est peut-être chanson que je veux lui dire. Et puis, aux pommes, que je lâche bêtement derrière. C'est sûrement aux pommes qui tombe de ma bouche après le bredouille qui lui fait comprendre chausson aux pommes. Parce que chanson aux pommes, c'est sûr qu'elle ne le comprendrait pas. Pourtant, c'est un chausson aux pommes que j'ai envie de manger. Enfin, pas vraiment, parce que je pense aussi à chanson. Quand je vois Élodie, c'est chanson que j'ai envie de dire à Élodie et non chausson. Et sans doute c'est pour ça que ça prend pas bien forme dans ma bouche, que chausson ne prend pas bien la forme de chausson, que chausson, ma langue ne lui donne pas assez forme, qu'elle forme le U à l'envers parce qu'elle est trop lourde pour bien claquer les sons de la chanson et du chausson, parce que finalement c'est chanson que je veux dire à Élodie. Oui, c'est chanson que je veux lui dire, mais du coup je ne dis ni chanson ni chausson, je dis quelque chose qui mixe chausson à chanson à cause du U retourné par ma langue qui enroule mal parce qu'elle est trop lourde pour bien claquer les sons du chausson et de la chanson. Et ce chausson mal élocuté, ça ne donne rien. Il n'y a qu'opum qui sonne bien dans ma bouche. Ma langue ne lui donne qu'opum à Élodie. À Élodie, je ne lui donne qu'opum. Le reste meurt dans ma bouche. Dans ma bouche meurt la chanson et le chausson qui se matérialise dans un sachet papier brioche dorée qu'Élodie dépose sur le comptoir pour que je l'emporte une fois que je lui aurai parfaitement dit au revoir et à bientôt. Merci, parfaitement, parfaitement prononcé. Merci. Merci, 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 merci.
S'est aimé comme ça pour la première fois. Moi je t'aimais tellement, mon amour si joli. Le temps va pas, j'ai besoin de parler à des gens. Je t'aime tellement, je t'aime tellement. Et dis-toi mon amour si joli. Ne t'en va pas, mon amour. Ne t'en va pas, mon amour. Je donnerai ma vie, ma vie, ma vie pour toi, Élodie. Je donnerai ma vie entière pour toi. Moi, je t'aime tellement. Il le dit, le temps en va pas. Reste avec moi, j'ai besoin de toi. Il le dit, ne t'en va pas. Moi, je donnerai ma ma vie, ma vie, ma vie, pour toi et le dit, et le dit, mon amour. Le temps va pour et le dit, je t'aimerai toujours et le dit, mon amour, et le dit, mon amour. Moi je t'aime tellement et le dit, et le dit, le temps va pour et le dit, et le dit. Moi je t'aime tellement, mon amour. Mon amour, 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 mon amour. Au sommet de moi, c'était le chanteur. Pour toi, et le dit mon amour, c'était le chanteur des rues d'Angers, des rues d'Angers. C'était le chanteur au sommet devant, 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 au sommet, au sommet, au sommet, au sommet, au sommet.
Merci.
Thank you.